Ah, faites-vous confiance, jetez ces éléments de savoir qui sont soit faux, soit ces éléments de savoir qui ne vous servent pas tout simplement. Puis du coup, là, une demande que je vous fais, dans les moments où je serai peut-être moins clair, où ça manque d'exemples, etc., merci de me faire des grimaces pour que je comprenne que je n'ai pas été très
Oui.
clair et qu'il faut que je donne un exemple pour faciliter notre compréhension collective dans la discussion de ce soir. Donc là, en tout cas, en principe, je fais un topo au début en mode le conférencier, là. Et puis après, l'idée, c'est qu'on ait plutôt une discussion collective, partagée. Alors, le cadre dans lequel je me suis retrouvé à travailler, donc sur... Oui, pardon, l'objectif principal de la soirée. Le titre qu'on avait mis, c'était pour en finir avec la culpabilisation individuelle en santé, et donc à propos des inégalités sociales de santé et des rapports sociaux de classe, rapports sociaux racistes et rapports sociaux de sexe. C'est l'objectif principal que je me donne ce soir, donc peut-être que c'est déjà évident pour vous, je ne sais pas, mais en tout cas, le but du jeu, c'est pour moi vraiment qu'on se donne des repères collectifs ce soir sur cette idée de surresponsabilisation individuelle dans le domaine de la santé comme dans d'autres d'ailleurs, mais où on nous fait porter les épaules sur nos propres épaules, notre état de santé, comme on nous fait porter sur nos épaules notre réussite scolaire, notre réussite professionnelle ou pas. C'est comme si, quand on veut, on peut. La volonté individuelle suffit à balayer un certain nombre de freins collectifs. Et la santé fait partie de ces enjeux. Ces questions qui font partie de nos vies, tous autant qu'on est. Pourtant, la santé est un des enjeux qui est dépolitisé depuis pas mal d'années. On en discutait tout à l'heure à plusieurs reprises. C'est inégal en fonction des mouvements de lutte. Il se trouve que la question de la santé, elle a été très politisée. Elle est encore aujourd'hui très politisée par les mouvements féministes et les mouvements gays, lesbiens, trans, cis, les mouvements LGBT. À une époque, le mouvement ouvrier avait basé une grande partie de sa lutte collective sur les questions de santé au travail, mais pas seulement, sur les questions de santé tout court, puisque le capitalisme tuait au 19e et que ça faisait partie des éléments de mobilisation qui ont été, dans l'évolution en tout cas, petit à petit, mais au second plan. Et en tout cas, même si l'histoire est jamais linéaire, hein, le moment historique où la question de la santé en lien avec le capitalisme, où ça revient, c'est le moment où il y a les suicides, notamment dans le cadre du travail, de burn-out, là, le fait de brûler de l'intérieur et de péter un câble sur son lieu du travail. Et c'est le moment où on a commencé un peu à repolitiser ces questions de santé qui, jusqu'à présent, étaient surtout vues comme des défaillances personnelles d'individus, collègues, qui, moins que d'autres, arrivaient à faire face au fait d'être performants dans le cadre du travail et de savoir gérer un certain nombre de choses. Et donc, il y avait des plus faibles qui n'arrivaient pas à faire face. On avait surtout une lecture très individualisante de ces questions psychologiques, du coup. Et puis depuis quelques années, mais quand je dis ça, c'est pour le contexte français. Hein. Depuis quelques années, commence à venir, mais péniblement et difficilement, le fait aussi que le racisme a pas que des effets sur le travail, sur l'accès au travail, sur l'accès aux droits. Le racisme a aussi des effets sur la santé des personnes, la santé individuelle, la santé collective. Mais du coup, on peine, pour le dire autrement, et c'est une des raisons aussi pour lesquelles je me suis emparé de ce sujet-là. Pour moi, en tout cas, il y avait une sorte de décalage entre un certain nombre d'acquis de la pensée ou d'acquis de la lutte, des mobilisations dans le champ militant, capitalisme, sexisme, patriarcat, etc., et racisme, colonialisme ou impérialisme, et puis de l'autre côté, la question de la santé qui était un peu à part. Et il se trouve que moi, dans ma pratique professionnelle, alors que j'étais pas du tout formé, en tout cas, aux questions de santé, même si j'étais formateur aussi dans une école éducateur spécialisée, j'intervenais pas sur ce champ-là. Pourtant, que ce soit dans l'accompagnement de collectifs d'habitants, toujours sur la casquette professionnelle, hein, dans le cadre de formation ou d'accompagnement de politique publique ou de professionnel, régulièrement, les questions de santé psychique ou de santé physique s'introduisaient dans le débat, faisaient partie du décor, avec des formes de tabou, des difficultés à appréhender ces questions-là. Et de non-réponse de la part et des professionnels, mais aussi moi qui n'étais pas tout à fait armé, du coup, pour faire le lien entre ce qu'on était en train d'aborder comme sujet quand on était sur qu'est-ce que la discrimination raciste, et puis qu'on se rend compte que, bah tiens, dans les gens qu'on connaît sur un quartier, ben, il y en a pas mal qui sont passés par l'hôpital psychiatrique, il y en a pas mal qui sont passés par la dépression, il y en a pas mal qui sont passés par la toxicomanie, pas mal qui sont passés par la violence. Bref, un contexte de corps affecté, d'esprit affecté, mais sans qu'on arrive tout à fait à le relier à ces grands systèmes ces grands mots, ces oppressions, ces dominations, etc. Il y avait un décalage. Donc en tout cas, moi j'ai eu le besoin de me former. Et puis du coup, la deuxième raison aussi, c'est que dans mon propre entourage, dans pas mal de personnes que je connaissais, y compris dans ma propre famille, des situations, d'état de santé affectés. Et à chaque fois, les différentes personnes, que ce soit sur des questions de cancer, que ce soit sur des questions de dépression, etc., ou d'alcoolisme, ou de toxicomanies diverses, il y avait toujours ce sentiment que les personnes portaient seules le poids de leur état de santé, mais du coup portaient aussi le poids de la honte vis-à-vis de cette santé. Puisque, en tout cas, c'est un constat que je fais. Alors, bon, pareil, hein, je vais vous dire des choses, peut-être que c'est des conneries, vous me reprendrez après. Hein, mais en tout cas, il me semble qu'une des forces, par exemple, du mouvement ouvrier, quand une personne. Quand je dis mouvement ouvrier, c'est dans le sens politique du terme, hein, c'est pas forcément les ouvriers. Le mouvement ouvrier, il s'occupait aussi des fonctionnaires, des cadres, des paysans, etc. Hein, c'est le mot du mouvement politique. Une des conséquences, en tout cas, de la mobilisation de ces luttes-là, était que les personnes arrivaient à avoir une grille d'interprétation collective de ce qui leur arrivait. Et qu'en termes de démarche personnelle pour faire face à une épreuve, il y avait aussi le sentiment que je n'étais pas seul à vivre quelque chose, d'autres personnes vivaient ce même fait social, etc. Et il se trouve que sur les questions de santé, du coup, la honte pouvait être contournée, peut-être pas immédiatement, hein, pas systématiquement, parce qu'il fallait un travail politique de partage d'expérience pour se rendre compte qu'on n'était pas tout seul. Mais il y avait une relative politisation qui permettait de lutter contre cette honte, cette individualisation de la responsabilité. Et là, il se trouve que sur les questions de santé, j'ai pas vu, moi, en tout cas, de cadre collectif qui arrivait à, pour le dire autrement, en fait, dans le cadre de n'importe quelle mobilisation militante, quand il y avait un des militants qui décrochait, qui pétait un câble, qui allait pas bien, une difficulté collective à pouvoir poser les choses politiquement aussi. Y compris sur les questions d'alcool en milieu militant, on a du mal à poser du cadre là-dessus. On est démunis, désemparés, il y a les grandes réflexions politiques, il y a les outils, les méthodes de travail qu'on se donne. J'ai envie de dire que les violences sexistes aussi, hein, c'est des choses sur lesquelles on est complètement démunis en milieu militant, en tout cas, sauf dans les milieux féministes qui sont formés, outillés et qui savent réagir collectivement, mais quand c'est pas forcément une tradition de réaction, quand des faits, des situations arrivent, il y a un relatif sentiment d'impuissance ou difficulté à lire les choses. Donc voilà pour les petits éléments déclencheurs. En tout cas, moi, le besoin de plus en plus de politiser ces choses-là. Et puis donc un cadre qui s'ouvre, une occasion, une opportunité pour dire ça, une commande du coup, au moment où je fais cette commande-là, donc la DRJSCS, vous savez que les politiques publiques, pour noyer les citoyens et qu'ils ne comprennent plus rien dans les politiques publiques, on fait plein de logos qui changent tous les ans. Et on parle tous en logo, comme ça on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc DRJSCS. L'actuel, parce que je crois que ça va peut-être même pas durer, direction régionale de la jeunesse et sport et de la cohésion sociale, qui en son sein maintenant, depuis les réformes de la RGPP, Révision générale des politiques publiques, a l'accès, l'Agence pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, l'accès pour le dire autrement. Historiquement, c'est la partie de l'État qui s'occupe de l'immigration, et notamment de l'immigration algérienne, musulmane, etc., les travailleurs immigrés. Ça faisait des années qu'on travaillait avec cette institution-là sur la question donc des discriminations racistes, discriminations liées à l'origine, et qu'on a, avec cette institution-là, eu des démarches de travail sur la discrimination dite multifactorielle, qui prend en compte la donne raciale, raciste, la donne sexiste, etc., et la dimension classe sociale. Puisque, pour le dire rapidement, vous savez comme moi qu'un immigré n'est pas traité de la même manière qu'un autre immigré. Si un immigré est un enfant de couple mixte allemand et suédois, que s'il est un enfant de couple mixte marocain et algérien. Il y a immigré, immigré acheteur. Hein, c'est pas la même. Ouais, pardon, des fois je parlais ch'ti aussi, je suis désolé, c'est quand ça revient, là. Il y a des trucs des éléments de culture populaire qui reviennent. Sauf que, de la même manière, l'accès chamboulé par les mutations institutionnelles. A normalement dans ses prérogatives d'intervention la question de la santé. Sauf que dans l'organisation du système français, la question de la santé, elle est plutôt prise par l'Agence régionale de santé aujourd'hui. En tout cas, c'est plutôt la logique médicale, médecine, les hôpitaux, etc. C'est plutôt cette logique-là. Et à la marge, un peu de travail social, mais dès qu'il y a le mot santé qui sort, hop, c'est tout de suite les médecins, la médecine qui va s'en occuper. Et donc, Ben, il s'agissait de voir dans quelle mesure les travaux, comment pouvait s'articuler le champ de la lutte contre les discriminations race-classe-sexe, pour le dire comme ça, et de l'autre, la question de la santé. Quel lien il y avait entre les deux, des discriminations dans le champ de la santé et du soin, mais aussi de l'impact des discriminations sur l'état de santé des personnes. Il s'agissait qu'on creuse ces questions-là. Donc le rapport que j'ai fait, c'est un rapport exploratoire, on peut dire ça comme ça. Alors je vous embête pas avec toute la méthodo, mais normalement quand on joue son sociologue, il faut qu'on vous donne un peu de billes sur comment ça a été construit tout ça. Mais en tout cas, pour le dire rapidement, il y a une trentaine d'entretiens qui ont été faits avec des acteurs du champ médical, des travailleurs sociaux, des acteurs qui sont pas ni du travail social ni médico-social, mais qui sont une asso lambda, même culturelle, d'un quartier populaire et de banlieue là, mais pour qui les questions de santé du public ont pareil émergé régulièrement dans leur pratique de travail. Des universitaires, épidémiologistes, sociologues, et des institutionnels et élus. J'ai essayé de prendre plusieurs types d'acteurs qui sont impliqués sur les questions de santé. Et puis donc après, analyse de la littérature internationale, nationale, un peu, tout ça. Et des situations d'observation, de temps de sensibilisation ou de journées consacrées à la santé, etc. Donc en tout cas, je vais pouvoir vous parler de ce que j'ai vu, observé, ce qui ne veut pas dire que forcément ça vaut pour l'ensemble du territoire français. C'est ce que je vais vous raconter, ce sur quoi j'ai enquêté moi. En tout cas, ça ne veut pas dire que c'est généralisable à d'autres situations. Alors, ça c'était donc pour le contexte. Et donc le rapport, ça s'appelle, si je ne dis pas de bêtises, du coup, pour une politique publique d'égalité en santé, égalité race-classe-sexe, et c'est les acteurs en santé. Face à ces inégalités sociales de santé, les acteurs de quartiers populaires et de banlieue. Parce que du coup, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, une bonne partie des intervenants sont parfois démunis et dépossédés face à ces questions de santé, mais même démunis et dépossédés quand ils se rendent compte qu'il y a des questions de sexe et de genre qui se posent avec leur public, ou démunis quand il y a des questions de religion qui se posent dans leur public, laïcité, pas laïcité, je sais pas comment faire, bref. Toutes les questions liées à l'immigration, aux religions, au racisme, aux dites ethnies, etc., qui se posent de manière un peu déroutante pour un certain nombre de professionnels qui ne sont pas armés pour faire face à ces situations-là. Je rentre maintenant sur. Je vais commencer à vous faire mon petit déroulé là sur quelques éléments du rapport. Une des grandes. Enfin, il y a un peu un récit, une manière de raconter les choses sur la prise en compte de ces inégalités sociales de santé. Et souvent, ce récit-là démarre par le fait que, on va dire en 1789, l'espérance de vie des hommes est à peu près de 27 ans, espérance de vie moyenne, et l'espérance de vie des femmes est de 28 ans à peu près. On a, en l'espace d'un siècle, un siècle et demi, entre guillemets, gagné à peu près 50 ans d'espérance de vie. Du coup, le constat qui est régulièrement fait dans la plupart des travaux en santé, c'est un constat collectif qui est fait d'augmentation de l'espérance de vie, etc., avec un maintien normalement qui est marqué toujours d'une disparité homme-femme qui d'ailleurs s'accroît petit à petit. Mais du coup, globalement, l'espérance de vie continue à augmenter. Et quelques auteurs regardent, oui, mais vos moyennes augmentent, mais au sein de vos moyennes, on constate des inégalités sociales de santé entre les groupes, les catégories socioprofessionnelles, entre les cadres et ouvriers. Entre les groupes hommes et groupes femmes, et aussi entre les étrangers et les nationaux, entre les gens issus de l'immigration notamment coloniale et ceux qui ne sont pas forcément issus de l'immigration coloniale, on constate qu'il y a des écarts, des inégalités qui continuent à se maintenir, voire s'accroître. Du coup, comment que ça se fait qu'il y ait augmentation de cette espérance de vie, l'état de santé général, et pourtant maintien des inégalités sociales de santé? Alors, du coup, juste pour qu'on soit sur ce premier petit temps, inégalité sociale de santé, je fais exprès de l'utiliser à chaque fois ce mot-là et non pas juste écart d'état de santé ou pas seulement inégalité de santé. Alors là, je fais peut-être chier, hein, c'est peut-être sociologue qui est chiant avec les mots, mais c'est juste pour l'aspect social rappellera deux choses. D'une part, c'est que les états de santé sont socialement construits. C'est pour ça que je vais employer ce terme-là à chaque fois. Et que du coup, s'il est socialement construit, ce qui a été fait peut être défait. Ce qui n'est pas forcément le cas si on croit que c'est naturel, ces écarts d'état de santé. Donc ça, c'est déjà un premier point. Et le deuxième point est le terme social et le terme d'inégalité normalement témoigne du fait qu'il y a une injustice à l'origine de cet écart. Un écart, c'est juste une différence, mais si on parle d'inégalité, c'est qu'il y a aussi une injustice qui est à l'origine de cette différence-là. Je ne sais pas si ça va juste pour ce point-là, parce que parfois, égalité, par exemple, je le dis rapidement maintenant, parfois, égalité, il y a des gens qui pensent que ça veut dire être tous pareils. Non, avoir un traitement égalitaire avec des personnes, c'est prendre en compte l'inégalité des besoins. Donc, être égal, par exemple, quand on distribue de la nourriture, bah, on ne va pas donner le même repas à un enfant de 3 ans qu'à un adulte de 30 ans, et pas un adulte de 30 ans, s'il bosse au champ ou dans le bâtiment de travaux publics, il n'a pas non plus les mêmes besoins alimentaires que quelqu'un qui travaille dans un bureau. Merci. D'accord? Donc, en tout cas, le terme, normalement, d'égalité ou d'inégalité, il y a la mesure de l'écart, de la différence, mais on rajoute aussi la question de la justice dans cette notion-là. Je ne sais pas si je suis clair sur ce point, est-ce qu'il est. Ok, ça marche. Et puis donc, du coup, ces écarts, ces inégalités sont bien constatées entre des groupes sociaux qui sont inégaux, mais qui sont aussi socialement hiérarchisés. Alors, dans l'enquête que j'ai pu réaliser, du coup, quand j'essayais de demander aux différents intervenants professionnels qui parfois avaient dans leur terme lutté contre les inégalités sociales de santé, ben, je leur demandais, pour vous, ça correspond à quoi? Qui est concerné en fait par les inégalités sociales de santé? Alors ça paraît peut-être stupide de poser la question comme ça, sauf qu'en fait elle était assez intéressante, en tout cas au vu des réponses, puisqu'il y a une bonne partie des acteurs qui disaient que les problèmes de santé, ou les inégalités sociales de santé, en gros, ne concernaient que les exclus. C'était les SDF, la figure des sans-papiers, les Roms, les très pauvres, les très précaires. Pour les autres, ça va. Mais pour eux, il y avait un problème. Pour d'autres acteurs, quand je leur demandais ce à quoi faisait référence, de quoi on parlait quand on parlait, enfin de qui on parlait quand on parlait d'inégalité sociale de santé, eux repéraient bien que c'était, en tout cas, qu'il y avait deux types d'acteurs qui étaient concernés. Il y avait bien un écart qui était mesuré, parce que dans la première situation, il n'y a pas d'écart, hein. On regarde des pauvres tout seuls, il n'y a personne en face, il n'y a pas de relation avec d'autres gens. Dans le deuxième cas, c'était effectivement, on disait riche, pauvre, cadre, ouvrier, ça arrivait. Mais comme s'il n'y avait que deux bouts de la chaîne de l'inégalité. Or, du coup, c'est une des choses que nous apprend, en tout cas, les travaux de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et plus particulièrement, là je vous amène à aller voir leurs travaux, la Commission des déterminants sociaux de la santé de l'OMS, qui a fait un travail, qui ont mené des travaux assez enfin, pertinents et en plus à peu près accessibles parfois. En tout cas, eux, ils nous disent que quand on parle d'inégalité sociale de santé, c'est d'une part pas seulement en bas de la pyramide, les seuls pauvres, les exclus, et c'est pas seulement à regarder entre ceux qui sont tout en haut et ceux qui sont tout en bas. Il y a bel et bien une pyramide sociale, une hiérarchie sociale, et quand on regarde les inégalités sociales de santé, ils ont ce qu'ils appellent, du coup, ce terme-là. Moi, je le connaissais pas avant de l'avoir croisé à ce moment-là. Il parle de gradient social de la santé. Qu'en fait, il y a un continuum inégalitaire du bas en haut de la hiérarchie sociale en matière de santé. Et du coup, il montre qu'à chaque fois, si je dis entre classes sociales, globalement, les classes populaires, classes ouvrières, ont un moins bon état de santé, ou on va le dire à l'inverse, les classes moyennes ont un meilleur état de santé, enfin les couches moyennes, pardon, ont un meilleur état de santé que les classes populaires. Mais eux-mêmes ont un moins bon état de santé que les classes supérieures, les classes dominantes. Et en fait, on se trouve ce gradient social de la santé à chaque échelle, même au sein de chaque grande classe sociale. Et du coup, ça va pas de soi, en fait, de constater ce continuum inégalitaire assez régulier. Il faudrait pouvoir l'expliquer. Et ça va d'autant moins de soi dans une société libérale comme la nôtre, qui nous raconte depuis les années 80 que la lutte des classes, c'est fini. Le capitalisme a créé l'égalité entre tous les citoyens. Globalement, il n'y a plus de pyramide sociale comme à l'époque de Pépé et Mémé. Globalement, notre société est une société de classe moyenne. Il reste quelques riches, parce qu'il y a toujours des riches dans toute société, et puis il y a quelques exclus, pas de bol. Et puis les autres, globalement, nous avons tous accédé à la société de consommation, et globalement, ça va, avec quelques disparités quand même, mais globalement, on est toute classe moyenne. Le rêve de la démocratie libérale s'est réalisé. Et donc, les cocos, les anards, les trotskos, tout ça, ils avaient raconté n'importe quoi, c'est fini, c'est la fin des idéologies et la fin de l'histoire. Ça, c'est raconté au niveau politique, mais c'est raconté y compris par les sociologues traîtres, hein, qui valident ces théories-là, qui les disséminent dans l'espace public, qui vont dans les colloques pour former les travailleurs sociaux, et les convaincre que ça y est, maintenant, on est tous égaux. Mais donc, du coup, il y a un problème, c'est que l'état des travaux sur les inégalités sociales de santé remet complètement en cause ça, puisque du coup, il y a ce gradient social. Et du coup, normalement, il devrait avoir quelques gueules cassées, les exclus, quelques gens pour qui la santé, tout va bien, et puis globalement, le reste, ils ont des états de santé un peu similaires. Or là, c'est pas le cas. Donc, est-ce que la pyramide sociale n'aura peut-être pas disparu? C'est une hypothèse qu'il faut pouvoir creuser. Et les quatrième type d'acteurs, du coup, quatrième type de réponse que j'ai pu repérer dans les entretiens, c'est que certains disaient, oui, il y a le gradient social, mais il n'y a pas seulement le gradient social entre catégories socio-professionnelles ou entre classes sociales. Il faut aussi qu'on prenne en compte la donnée sexiste et la donnée raciste, et la question de l'homosexualité, etc. Les inégalités sociales de santé, elles se déclinent aussi au regard du racisme, du sexisme, etc. Ce qui n'est pas forcément le cas pour pas mal de personnes. Ceux qui arrivent encore à garder le prisme de l'inégalité, parfois on est beaucoup sur la question de la lutte des classes strictement, et elles sont chiantes, les féministes, avec leur sexisme, leur patriarcat, c'est un truc secondaire. Enfin, ça, je pense que vous êtes un peu sensibilisés à ces modes de résistance-là. Et puis pareil, ils nous emmerdent, ces arabes ou ces musulmans, nous parler d'islamophobie, c'est un truc... L'essentiel, c'est la lutte des classes, quoi, après tout. Donc là, évidemment, les acteurs que j'ai entretenus ne parlaient pas comme ça. Ils ne parlaient pas forcément de lutte des classes, d'islamophobie, quoique. Donc ça, c'était pour déjà une première chose. La question de la santé, enfin, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, pour moi, en tout cas, ça n'allait pas de soi, ce gradient social de la santé, même si une fois qu'on me l'explique, bah ouais, bah évidemment, en fait. Ça paraît un peu évident, quelque part, qu'on nous dise, au plus on monte dans la société, au plus on... plus la santé est bonne. Sauf que ça ne correspond pas du tout au schéma dominant en France, médico-social notamment, qui nous explique uniquement notre état de santé au regard de la qualité du système médical, de la technologie médicale, et qu'en fait, puisqu'elle touche, elle est censée toucher tout le monde, au pire, ceux qui ont un mauvais état de santé, le problème se situe dans l'accès aux soins. Mais quand ils ont accès aux soins, il y a un traitement égalitaire, donc les états de santé devraient se ressembler normalement. Or, c'est toujours pas le cas. Alors, maintenant, je voudrais essayer d'aborder avec vous la question des causes. Quel type de grande grille d'explication de ces états de santé inégaux? Est-ce que je vous le dis quand même maintenant? Ouais, quand même un peu de chiffres, pour que, histoire d'eux, que ça fasse sociologue, puis quand même, je vous donne quelques petits repères. Sur les questions d'inégalité sociale de santé en termes de catégories socio-professionnelles. Parce que du coup, je ne peux pas vous le dire en termes de classe sociale, puisque dans les statistiques publiques, on ne raisonne pas en termes de classe sociale. Ce n'est pas un outil de mesure de la réalité. Moi, je considère que ça devrait en être un. Ce n'est pas le cas. Les statistiques publiques ne sont pas neutres. C'est extrêmement politique. Et vous savez que, par exemple, dans la catégorie de paysans, on met le grand propriétaire terrien paysan avec le petit paysan pauvre qui cultive trois carottes bio... et que dans la catégorie socio-professionnelle des patrons chefs d'entreprise, on a les patrons du 440 qui sont dans la même catégorie socio-professionnelle que le petit épicier du coin qui vend 3 mars et quelques bouteilles de bière et du pain pour dépanner. Du coup, c'est des brouilleurs de repères en termes d'inégalité, puisqu'on met des gens qui appartiennent à des classes sociales différentes, des gens sous la même casquette socio-professionnelle. Néanmoins... Les CSP, c'est un des outils pour les sociologues d'essayer de mesurer les inégalités quand même. En France, il y aurait normalement un écart d'espérance de vie d'environ 6 ans entre ouvriers et cadres. D'accord, ok. Mais ça, c'est aussi traître comme type d'analyse, parce qu'on pourrait dire que ça paraît pas tant que ça. On pourrait, hein. Je le dirais pas, mais on pourrait. Si on rajoute... la question du type de vieillissement auquel on a accès, et si on ajoute la prise en compte dans le vieillissement, le fait d'avoir un état de santé dégradé au moment du vieillissement, c'est 8 ans d'espérance de vie entre cadre et ouvrier, et si on rajoute le vieillissement sans aucun problème sensoriel, physique, etc., c'est 10 ans d'espérance de vie de différence. Déjà, ça augmente, et que en moyenne. Autant vous dire. Ça, hein. Pardon.
Tu peux juste dire 6 ans, 8 ans, 10 ans, là, la différence, c'est pas clair.
L'espérance de vie, c'est l'espérance de vie, c'est le moment où tu.
La logique. Non, mais ça, j'ai compris.
On va parler.
Juste rajoute, oui, t'es parti de 6 ans d'expérience de vie, t'as rajouté des choses.
J'ai rajouté le fait d'avoir des problèmes de santé au moment du vieillissement.
Ok.
Parce que si par exemple, c'est bien, c'est chouette de pouvoir vivre plus longtemps. Sauf que si tu es entièrement dépendant, que tu passes la fin de ta vie à tousser parce que tu es plein de cancers de partout et je sais pas quoi, tu n'as pas tout à fait la même retraite, en fait, le même type de bonheur ou de bien-être à la retraite, au moment de profiter de ta retraite, que quelqu'un qui effectivement vieillit sans écart de santé. Cet enjeu-là, ne serait-ce que celui-là, au moment où on a un débat public, politique, sur le recul de l'âge de la retraite, l'enjeu est fondamentalement différent. Si on regarde l'état du vieillissement, et y compris les inégalités d'espérance de vie, puisque s'il y a des personnes, la moyenne des gens de leur milieu social et de leur classe sociale sont déjà morts à 65 ans, et qu'on choisit d'aller jusqu'à 65 ou 67 ans, on refait le même choix du patronat qu'au 19e siècle, c'est-à-dire qu'on s'arrange pour que des personnes, pour qu'on n'ait pas à payer la retraite d'un certain nombre de groupes socio-professionnels. Sur l'enjeu politique de la retraite, je ne sais pas si vous le savez, mais du coup, pour information, le système des retraites a quasiment été inventé par les mineurs, avant qu'il soit élargi au niveau national pour toutes les corporations de métiers, ou presque. Et le moment où l'âge de départ à la retraite a été négocié entre les patrons des houillères et les syndicats ouvriers, le rapport de force à ce moment-là était en faveur du monde ouvrier pour imposer l'idée d'un système de retraite. Mais c'est quoi la date moyenne de décès des mineurs? Et une fois qu'ils ont repéré cette date-là, c'est la date qu'ils ont choisie pour pouvoir mettre en place le système des retraites. Sympa quand même comme type de critère de choix pour se décider là-dessus. Mais donc comme ça, je vous disais, c'est déjà une moyenne. J'ai pas, dans le type de chiffres auxquels moi j'ai eu accès, peut-être qu'ils existent, mais j'y ai pas eu accès, y compris parce qu'il y a eu des résistances de la part des institutions publiques qui devraient délivrer des statistiques là-dessus. On n'a pas voulu me donner le détail au-delà de la question de la moyenne nationale. Il y a des moyennes régionales parfois, mais quand on veut aller un peu plus dans le détail sur un territoire, j'ai pas réussi à accéder, on m'a pas donné accès aux statistiques plus détaillées que ça. Parce que les moyennes sont trompeuses. Si admettons, parmi nous, il y avait un millionnaire qui arrivait ce soir, on pourrait dire, dans les gens qui sont présents ce soir, le niveau moyen de revenu, il serait super élevé. Vous auriez pas un euro en plus dans votre poche pour autant, hein. Donc les moyennes, elles sont trompeuses parce qu'en fait, on invisibilise complètement la question des inégalités. Dans une étude anglaise, alors là du coup, j'ai plus le nom, c'est Richard Wilkinson qui la cite, une étude anglaise qui a été faite à Londres, ils ont comparé l'espérance de vie entre deux quartiers qui se chevauchent, qui se touchent, entre un quartier plutôt populaire ouvrier et un quartier bourgeois qui est juxtaposé, il n'y a qu'une rue qui les sépare. L'écart d'espérance de vie est de 18 années. Donc là, on n'est plus dans la moyenne nationale anglaise. Là, on regarde sur un territoire très concrètement des groupes sociaux là, qui sont à l'opposé de la hiérarchie sociale et ça augmente considérablement. Ma main a coupé que si on prenait Roubaix, par exemple, dans le cas de Lille, là, d'où je viens, si on regarde à Roubaix, on aura la moyenne de l'espérance de vie sur Roubaix, mais si on regarde le quartier le plus riche de Roubaix et le quartier le plus pauvre, je suppose qu'on va dépasser largement la question des 6 années d'espérance de vie. Normalement, ça, c'est pour l'aspect classe sociale. Si je parle de la question des rapports hommes-femmes, on nous dit tous, et c'est pas entièrement faux, mais Yang dit sous Roche, je l'aborderai après. Normalement, on nous dit tous que les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Ce qui est d'ailleurs étonnant, puisque comme elles n'arrêtent pas de dire qu'elles sont dominées par les hommes, ça devrait se traduire dans les inégalités sociales de santé et l'espérance de vie, puisque l'espérance de vie comme indicateur est l'indicateur synthétique de toute une vie d'oppression, domination, d'injustice ou de privilèges et d'avantages. Donc normalement, si les femmes sont systémiquement, tout au long de leur vie, dominées par les hommes, ça devrait se traduire par une inégalité en leur défaveur à la fin. C'est pas le cas. Ce qui permet d'ailleurs à des gens de nous dire oh, « bah, si dominées que ça, les femmes ». Mais je vais y revenir, parce qu'il y a une embrouille. Sur la question de la prise en compte du poids du racisme dans ces écarts de santé, en France, là encore, il est difficile de construire des statistiques publiques puisqu'on n'est pas autorisé à prendre en compte la catégorie nationalité, on peut, mais la catégorie entre guillemets race ou ethnie ou religion, par exemple, on ne peut pas la prendre. D'un côté, tant mieux, parce qu'on ne revalide pas des catégories qui sont fausses. Mais du coup, comme on est un certain nombre à le dire, et c'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle parfois je vais parler de race ce soir, et pour lequel le dictionnaire des dominations race, classe, sexe qu'on a employé, c'est bien le mot race qui est employé, la race biologiquement n'existe pas. Il y a bien une espèce humaine, et donc du coup on pourrait dire une seule race humaine. Les races noires, asiatiques, etc. n'existent pas. Pourtant le racisme, lui, existe, et il se base sur l'existence des races, des ethnies, etc., de groupes sociaux raciaux. Et du coup, le racisme a bien des effets concrets sur la vie des gens, et de ce point de vue-là, je ne sais pas si je suis clair jusque-là, de ce point de vue-là, le racisme, lui, crée socialement la race. Donc c'est un peu la même réflexion quand les féministes disent y a le sexe biologique, le sexe chromosomique, etc. Et puis il y a le sexe social, qui est la condition d'oppression des femmes, etc. C'est le genre. Là, finalement, la race, il faut aussi l'entendre comme ça, comme la classe sociale. Le genre, ce serait peut-être le sexe social. Et la race, pour l'entendre comme une race sociale également. En tout cas, si on essaye de prendre en compte ce point-là, il y a notamment deux études américaines, là où eux, ils ont le droit d'utiliser la catégorie race, pour le meilleur et pour le pire, hein, les statistiques américaines. Mais du coup, aux États-Unis, là, c'est Michael Marmotte, toujours un des gars de la commission déterminants sociaux de la santé. Donc, il relate que si on prend un homme noir de quartier populaire, ouvrier, etc., type Harlem, avec une femme blanche de couche supérieure, l'écart d'espérance de vie est de 28 années. C'est considérable. Donc c'est une des matérialisations dans les statistiques, en tout cas, de ces inégalités sociales de santé. On ne sait pas encore expliquer pourquoi, mais en tout cas, on les constate. Là, il va bien falloir qu'on raconte quelque chose dessus. Et pour information, si on regarde l'espérance de vie après 65 ans d'un homme d'Harlem, il a moins de chances de survie après 65 ans qu'un homme ou une femme du Bangladesh. Et là, ça interpelle sacrément, puisque si on s'imagine un peu, même rapidement, sans s'y connaître, être un spécialiste de la géopolitique du Bangladesh, a priori, le Bangladesh, en termes d'équipement de services publics, d'assainissement des eaux, bref, d'un certain nombre de critères qui sont censés être favorables ou défavorables à la santé, c'est incomparable, normalement, avec une situation nord-américaine, même si on sait la déflagration totale du libéralisme aux États-Unis depuis une trentaine d'années. C'est quand même un des pays les plus pauvres du monde, et l'autre, c'est le pays le plus riche du monde. Du coup, là, il y a quand même quelque chose qui interpelle. Comment c'est possible que quelqu'un qui vit dans un des pays les plus riches du monde ait une espérance de vie moindre que deux personnes qui vivent dans un des pays les plus pauvres du monde. Donc ça, c'était juste pour vous donner une idée de ces écarts entre groupes sociaux hiérarchisés, etc. Alors, du coup, maintenant, dans les principales causes qu'on peut entendre aujourd'hui pour expliquer, du coup, ces inégalités, parce que quelles que soient les convictions scientifiques, les postulats scientifiques ou les convictions politiques, idéologiques des chercheurs, vous savez que même en science, il y a des choses sur lesquelles, que ce soit de droite ou de droite, etc., il y a des faits sur lesquels tout le monde s'accorde. Les faits, du coup, là, les faits, ils se construisent aussi. Hein. Il y a aussi parfois des désaccords sur les faits. Mais il y a des faits sur lesquels tout le monde est d'accord. Par contre, c'est le système d'interprétation qui diffère. Donc là, les inégalités sociales de santé, ça fait partie des choses, quand on regarde ces fameux écarts, sur lesquels il y a un relatif accord. Quand on essaie d'interroger sur la question des causes, je ne sais pas pour vous, mais même quand on est... Même quand on essaie de comprendre une situation ordinaire à l'école ou pour comprendre nos propres vies, parfois on est un peu emmerdé parce que si on fait la liste comme une liste de courses, il y a une multitude de variables et de facteurs qui peuvent s'additionner sans qu'on sache forcément bien les mettre en ordre et savoir, ce qu'on dit en science, là du coup, lequel est prépondérant par rapport aux autres. Parce que peut-être que si vous devez juger mon état de santé, vous allez voir, Jessie a une chemise noire, donc peut-être que ça joue. C'est un des facteurs. On constate que j'ai une chemise noire, mais c'est peut-être moins important que mon origine sociale, par exemple, ou mes conditions de travail. En tout cas, il y a une multitude de facteurs qui sont présentés pour expliquer les questions de santé, et normalement, à commencer par la question biologique, la question de l'hérédité, la question des gènes. La santé, plus que d'autres terrains de lutte ou terrains de réflexion, c'est quelque chose que, particulièrement, on biologise. Parce que la médecine agit sur le corps, c'est de la biologie, donc et c'est notamment un des reproches que font un certain nombre de chercheurs, ceux qui disent que notamment la médecine, c'est principalement outillé uniquement sur les sciences biologiques au détriment des sciences humaines pour pouvoir penser les questions de santé. Des chercheurs, du coup, disent que En fait, même la médecine est amputée entièrement d'une partie des causalités de la production de la santé depuis un certain nombre d'années. En tout cas, alors là, pareil, je vous balance des chiffres, vous les croyez ou pas. Le poids de la biologie dans la détermination des états de santé représenterait que 16% des causes. Alors pareil, ça dépend des études, c'est entre 16 et 28 en fonction des auteurs, etc. En tout cas, c'est pas si important que ça, et c'est surtout pas le principal. Le second facteur important qu'on mobilise, et notamment en France, où on dit qu'on est plutôt caractérisé par un paradigme, une approche, un système d'explication qui est qualifié de biomédical. Bio, toujours le côté biologique uniquement. Et médical, c'est le système de soins, la qualité du système de soins, la performance du système de soins, le niveau de technologie médicale, etc., qui permet d'expliquer les inégalités de santé. Et là, on est bien emmerdé aussi, parce que du coup, la France est reconnue en 2000 par l'OMS comme ayant le système, je crois que c'est toujours aujourd'hui, hein, on va dire que le libéralisme en France depuis une quinzaine d'années maintenant a fait son chemin, mais en tout cas, en 2000, c'était le système de santé le plus performant au monde, et pourtant, c'était le pays européen où il y avait les plus grandes inégalités sociales de santé. Donc là encore, il y a un décalage entre ce qu'on raconte collectivement, majoritairement, avec ce fait, les inégalités sociales de santé, qui sont des faits qui nous mènent la vie dure. Et apparemment, la part de ces inégalités sociales de santé, selon l'IGAS, du coup, l'Inspection Générale des Affaires Sociales, la part du système de soins ne représenterait qu'environ 11% dans la détermination des états de santé. Donc là, deuxième monument qui s'écroule, c'est la principale approche en santé publique aujourd'hui, et pourtant, ça semblerait être que minoritaire. Un quatrième, du coup, il y en aurait d'autres, hein, mais je ne vais pas vous saouler avec l'ensemble de ça. En tout cas, l'approche bio, elle est principale. Système de soins, elle est très importante également. Et une autre, mais alors celle-là, elle est dévastatrice, et c'est celle-là que j'ai envie de défoncer avec vous, là, maintenant. L'approche par les comportements individuels de santé. Toute la prévention en santé, ou presque, aujourd'hui, explique l'état de santé dégradé, notamment dans les quartiers populaires, sur les comportements individuels de santé. Comment vous mangez bien? C'est le fameux truc, manger 5 fruits, 5 légumes par jour, faire du sport, arrêter de boire, arrêter de fumer, et j'ai dû en oublier un. Tu dis?
Produits laitiers.
Prenez des produits laitiers, etc. En tout cas, à chaque fois, la grille d'explication et donc le levier pour améliorer notre santé, c'est nos actions individuelles concrètes. Et alors là, c'est là où je vais vous faire un petit cours rapide d'autodéfense vis-à-vis de la science et de l'usage des statistiques. Parce que du coup, en tant que militant, en tant que professionnel, en tant qu'humain, des fois, quand il y a des gens qui viennent avec leur statut d'expert, on n'a pas fait leur boulot, donc des fois, ce qu'ils disent, on croit que c'est vrai, ou des fois non, mais on n'a pas le temps d'enquêter nous-mêmes, etc. Là, c'est Nicolas Cantorelli, qui est un Suisse, qui a dû, à la demande de l'État fédéral suisse, ils lui ont demandé, fais-nous la synthèse des travaux internationaux qui ont été faits pour expliquer les inégalités sociales de santé. Et on a besoin, sur la base de tes travaux, du coup, de choisir l'approche de l'État fédéral suisse dans la compréhension, l'analyse, l'explication et donc les manières d'agir pour réduire les inégalités sociales de santé. Donc lui, il s'est fait un truc titanesque, là, il a lu une quantité de choses. Et du coup, il a essayé de synthétiser pour pouvoir mesurer en tout cas l'importance des facteurs qui sont mobilisés. Et là, dans ce que je vais vous faire, il essaye de faire la part des choses entre les facteurs individuels, comme étant responsable de santé, les facteurs comportementaux, et de l'autre côté, les facteurs sociétaux, structurels, systémiques, macro-sociaux, macro-économiques, comme vous voudrez. En tout cas, c'est individu et société, pour le dire comme ça. Dans le travail qu'il réalise, il dit que sur l'ensemble des études réalisées, on arrive à expliquer que 70% des facteurs. Il y a 30%, pour l'instant, l'état des travaux permet pas de les isoler. Donc les chiffres que je vais vous donner, c'est sûr, c'est 70%. De l'ensemble des facteurs qu'on a réussi à identifier et qu'on peut expliquer. On arrive à faire à isoler les variables pour dire ça pèse, etc. Donc on explique 70%. Et donc dans ce petit schéma, les facteurs dits individuels, comportements individuels ou les facteurs sociétaux, Là, je vais vous présenter les choses comme si moi j'avais intérêt, notamment parce que je vais vous vendre de la soupe, parce que je suis venu avec ma petite brochure de prévention des comportements en santé et que je viens vous alarmer comme tout bon sociologue, consultant, etc. Étape 1, je vous dépeins un tableau catastrophique, c'est pire qu'avant, ça n'a jamais été comme ça. Comme ça, je crée un peu d'affolement. Et donc, du coup, après, et les grilles de lecture qu'on avait avant, elles sont dépassées, passées, etc. Mince, tous mes repères s'effondrent. Et puis, donc, du coup, comme je vais vous vendre de la soupe, je veux dire, mais moi, j'ai fait des travaux, je suis très pertinent, j'ai fait la synthèse, des nouveaux trucs et tout. Donc, je vous donne de nouveaux repères. Et puis, en troisième partie, je vais vous vendre mes modes d'action pour pouvoir vivre de formation, etc. Alors, ça aussi, c'est l'adapté d'Educ Pop sur les techniques de manipulation d'experts, parce que c'est comme ça qu'ils procèdent les experts. En insécurité, c'est le même. Quand on vend de l'insécurité, c'est les mêmes processus. La jeunesse n'a jamais été aussi violente, les chiffres de l'insécurité explosent, les vieilles grilles de lecture des travailleurs sociaux, l'éducation spécialisée. Faut donner du travail aux gens pour qu'ils arrêtent de voler. C'est des vieux trucs passéistes, marxistes dépassés, ça. Non, non, il y a un problème de cadre de l'autorité, etc. Bref, un certain nombre de choses, il faut mater la jeunesse. Et le troisième temps, du coup, les types de solutions, la vidéosurveillance. Les dispositifs locaux de lutte contre l'insécurité, etc. Est-ce que vous le connaissez, le fameux Xavier Reuffer et Alain Bauer? Si vous ne connaissez pas leur nom, leur gueule, vous les avez vus depuis 20 ans dans les médias. Je ne sais plus lequel des deux est d'extrême droite à l'origine, c'est toujours intéressant de savoir d'où viennent les gens. Et pas si éloigné que ça encore d'extrême droite aujourd'hui. Le deuxième, c'est un bon néoconservateur, bien de droite, etc. Et ces deux bonhommes, du coup, ont comme technique ce que je viens de vous dire. Et ce qu'on nous dit rarement quand ils interviennent dans tous les médias, les débats publics, y compris les trucs pseudo de gauche à la télé, là, on oublie de nous dire que ces vendeurs d'insécurité, ces vendeurs de peur, sont par ailleurs PDG dans une autre casquette quand ils ne sont plus consultants. Ils sont PDG de boîtes qui font de la vidéosurveillance, etc. Donc c'est vachement pratique. Moi, dans une des villes de Lille, là, Villeneuve-d'Ascq, qui était une des premières villes dites de gauche à mettre en place, à agir sur la question de l'insécurité, faire des plans locaux de lutte contre la délinquance. C'est ce bonhomme-là, ces deux affreux-là qui sont venus, ils ont fait leur rapport, et c'est une fois qu'ils ont fini leur rapport, bah donc il faut qu'on trouve une entreprise pour pouvoir appliquer les préconisations des consultants. Ah bah ça tombe bien, justement, la vidéosurveillance, je peux vous la faire, les modes d'organisation des vigiles sur la ville, je peux vous le faire, etc. Donc là, je joue la casquette de celui qui va vous vendre de la prévention individualisante, culpabilisante, en santé, etc. Alors, excusez-moi, je vais prendre mes petits chiffres. Si je veux donc vous affoler, j'ai pris le tableau. Excusez-moi un tout petit instant. Je vous dis, pour comprendre et puis savoir comment agir, je vous dis que les facteurs individuels, ils représentent 37%. Des causes de nos états de santé, quels qu'ils soient. Suicide, conduite à risque, dépression, toxicomanie, cancer, diabète, obésité, la totale, quoi, du coup. Et puis, les facteurs sociétaux, facteurs collectifs, du coup, ils représentent 33%. Bon, bah du coup, peut-être vous êtes plus malin que moi, mais moi, en tout cas, quand je vois ça, je me dis « Ah !» C'est le 37% qui est le plus important, donc c'est là stratégiquement qu'il faut agir en plus. Et puis ça tombe bien, parce que moi concrètement, en tant que travailleur social ou en tant qu'intervenant en santé, moi j'agis sur des individus, des groupes d'individus, mais j'agis sur des gens. Donc là, moi c'est un levier sur lequel je peux intervenir. Et puis troisièmement, si je devais intervenir sur le côté société, systémique, etc., changer le monde et tout, là, je vois plus du tout comment on fait, là, j'ai plus de repères. Et puis si je fais un projet pour l'ARS ou la préfecture ou je sais pas qui, pour leur dire « je veux changer la société pour améliorer les conditions de vie des gens », je suis mal barré. Même si je ne mets pas capitalisme, que je mets néolibéralisme, on ne va pas me financer. Même si je ne mets pas patriarcat, que je mets question de genre ou que je mets égalité homme-femme, je ne suis pas sûr d'être financé quand même, faut voir. Mais donc, ça fait trois raisons pour lesquelles je vais pas agir là-dessus. Donc, je cible sur les comportements individuels des gens et je vais donc leur faire la morale pour leur dire qu'ils se comportent mal et je vais leur expliquer comment ils devraient se comporter en santé pour qu'ils améliorent leur santé. Et si malgré mes 2-3 années d'intervention, ils n'ont toujours pas bougé, bah, s'ils développent une maladie, je vais pouvoir leur dire bah, « t'as pas arrêté de fumer ». Ah, vous avez un cancer ? Ah, vous fumiez ? Ah oui, bah, on va pouvoir ensemble accompagner la maladie, hein, mais c'est loin d'être anecdotique, ce que je viens de faire là. Les premières choses, quand il y a quelqu'un qui a un problème de santé, on lui pose une série de questions. Et à chaque fois, le type de question, elle oriente sur la responsabilité individuelle. C'est de ta faute. Alors maintenant, je vais faire une autre casquette. Jessie va, sur la base des mêmes chiffres, vous les présenter autrement. Et moi, je veux vous vendre de la révolution. On va arrêter à agir avec les gens. Il faut de la révolution. Il faut abattre le capitalisme. Il faut abattre le colonialisme. Il faut abattre le patriarcat, etc. Sur la base des mêmes chiffres, je vous les présente autrement. Et là, je vous dis donc que les déterminants sociaux de la santé représentent 56% des facteurs qui influencent nos conditions de vie, et les facteurs individuels de santé, ça représente que 14%. Donc arrêtez avec vos actions sur les individus, il faut s'attaquer aux causes systémiques uniquement, parce que c'est là que se situe l'astuce. Et alors maintenant, pourquoi je vous dis que c'est les mêmes chiffres, la petite astuce de ce qui se passe dans ce traitement de statistiques avec pourtant des données qui sont communes aux différents chercheurs, mais qui sont présentées de manière différente. Si on dit que c'est les facteurs uniquement individuels, on est toujours à 14%. Si on est sur les facteurs macro, les politiques publiques, l'état des lois, le libéralisme, l'Europe, là on va bientôt voter, il paraît, donc les facteurs sociétaux, ils représentent 33%. Et, bah ouais, mais alors il me reste 23%. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et bah ce 23%, avant que je vous dise ce que c'est, ce 23%, en fonction des approches scientifiques ou politiques des gens, en fait, ils les font basculer du côté individuel pour vous convaincre que le cœur des leviers de transformation, c'est la question individuelle. Ou alors ils le font basculer, mais ça c'est plus rarement, parce que des gens aujourd'hui qui politisent la question de la santé, je vous l'ai dit, ça court pas les rues. Ou en tout cas les gens qui le pensent, certes, mais qui peuvent l'écrire ou qui peuvent le défendre dans le cadre de leur pratique professionnelle, c'est pas si évident que ça. Donc là, normalement, on les ferait basculer du côté des 56%. Pour le dire simplement, ces 23%, c'est la part de nos comportements strictement individuels, nos modes d'action à nous, qui sont déterminés par le niveau macro-social et collectif, l'état des politiques publiques. Pour vous donner quelques exemples de ça, sur la question de l'alimentation, on va pouvoir aller expliquer à des pauvres qui se nourrissent mal, arrêter d'aller à ED, à Aldi, d'acheter de la malbouffe. D'accord. Sauf que du coup, on a beau leur répéter pendant des heures et des heures, il y a des gens qui disent « Mais moi, je fais comment pour acheter votre bouffe bio, diététique et tout ça avec les revenus que j'ai ?» Quand bien même je suis travailleur pauvre. Ou quand bien même je suis pas travailleur pauvre, vu le prix de mon logement, en fait, là où j'ai des marges de manœuvre dans la gestion de mon budget, c'est la question de l'alimentation. Question économique, là, normalement, ça va vite à ce qu'on ait ce réflexe-là, il me semble, collectivement, ça paraît le plus simple. Ce qui est moins évident dans ces facteurs sociaux, c'est aussi sur les héritages en termes de normes, de culture, ou en termes de rapport à la dignité qui peuvent se jouer dans nos comportements individuels. Dans deux entretiens que j'ai réalisés à Calais, ancienne ville Coco qui a basculé à l'UMP bien à droite, là, près de Sangatte, où il y a les migrants, etc., on avait fait un diagnostic sur les politiques éducatives locales. Et régulièrement, sur les problèmes éducatifs qui revenaient, la plupart des acteurs professionnels en venaient toujours à souligner la démission parentale, c'est de la faute aux parents, ils éduquent mal leurs gosses, etc. C'était vraiment permanent. On n'est pas sur le champ de la santé, mais la grille de lecture est la même. Bien évidemment, nous, on a fait des entretiens avec les parents dans les deux principaux quartiers ouvriers populaires de la ville. On n'a pas rencontré un seul parent sur 100 personnes interrogées, pas un seul parent qui nous disait se contrefoutre de la réussite de sa vie. Moi, j'en ai jamais rencontré des parents qui disent que j'ai fait des enfants pour qu'ils se cassent la gueule ou qu'ils crèvent. J'en ai pas rencontré des parents qui étaient démissionnaires, j'en connais pas. Par contre, des parents qui étaient empêchés d'être à la hauteur de leur tâche éducative ou qui galéraient, des parents en difficulté, on en a rencontré énormément. En tout cas, on discutait avec les gens et... Alors du coup, non, en fait, c'est trois anecdotes qu'il faut que je vous donne par rapport à ça. Les deux premières sur la question de la bouffe. On a demandé à des personnes... c'est arrivé sur la question de la bouffe, à un moment donné. Et donc, il y avait une des personnes qui nous disait, moi, à chaque fois que les allocations tombent, la première chose qu'on fait, on va se baraque à frites. En famille, on va se baraque à frites et on se bouffe des frites et des fricadelles. Les fricadelles, chez nous, c'est des trucs, des espèces de saucisses dégueulasses que tu trempes dans l'huile, qui sont hyper grasses, etc. Bon, d'accord. Et à chaque fois qu'ils peuvent, qu'ils ont un peu de sous de côté, ils vont en famille à Jbarak Afrique. Du coup, vous êtes vraiment... je crois qu'il y a un problème de compréhension, en fait, du côté de ces familles. Peut-être que c'est la question du capital culturel qui entre en cause, parce qu'on aura beau leur avoir expliqué, ça ne rentre pas, en fait. Ils ne se rendent pas compte, ils ne comprennent pas. Modèle de la rationalité dans la prévention. Et quand on discute avec les gens, ils nous disaient, mais nous, en fait, là, on n'a plus une thune, et à nos gamins, on ne peut jamais leur faire de cadeaux. Et quand l'argent tombe, aller à la baraque Afrique, c'est le seul moment dans la vie familiale où on arrive à partager quelque chose en famille et qu'on est soudé, qu'on passe un bon moment. Et les personnes disaient, et vous voulez m'enlever ça. Du coup, là, c'est emmerdant comme exemple. Parce que ce n'est pas de l'économique normale. Et du coup, il se joue quelque chose autour du lien social, de l'amour, du type de respect, c'est de la dignité aussi. C'est assez curieux, mais du coup, c'est ça qui explique le fait qu'ils vont continuer. Du point de vue de la prévention modèle rationnel, à continuer à s'abîmer la santé sur la question alimentaire. Un deuxième exemple du coup qui va dans le même sens, là c'était une personne qui avait un début de cancer, etc., et qui continuait à fumer, qui continuait à bouffer gras, de la grosse viande grasse, des gros plats plein de patates gras et tout ça. Et donc du coup il mangeait mal. Et donc pareil, les acteurs qui regardaient cette personne, c'est pas rationnel, c'est irresponsable, etc. Et quand on demandait à la personne, elle disait, mais d'abord, je mange des plats comme ça, parce que moi j'ai été ouvrier toute ma vie, et c'est pas avec vos repas des graines d'oiseaux bio, là, que moi je vais pouvoir affronter mes conditions de travail. Et d'accord, je travaille peut-être plus maintenant, mais du coup, c'est mon histoire en fait alimentaire, ça. Y rajouter en plus... Ce type de nourriture-là, j'ai un rapport affectif à cette nourriture-là, ça me rappelle les plats que me faisaient ma mère et ma grand-mère et mon arrière-grand-mère avant elle. Ça me fait chaud au cœur, ça me tient debout. Et troisième élément, il disait, dans ma vie aujourd'hui, je ne décide plus de rien. On décide tout pour moi. Les allocs, on décide pour moi. Le travail, on décide pour moi. La santé, on décide pour moi. On décide tout de ma vie. Et le seul espace de liberté qui me reste, c'est ce que je mange, c'est moi qui décide. Et ma cigarette. Et vous voulez m'enlever mon dernier espace de liberté. Personne ne disait, moi, j'ai plus qu'à me foutre en l'air. Alors. Là, c'est compliqué, encore une fois, parce que du coup, ce côté sociétal, là, ces facteurs macro, etc., c'est autre chose qui joue, même dans les rapports des comportements individuels. Il y a une signification sociale qu'il faut pouvoir attraper et qui ne va pas de soi, en tout cas, qui n'est absolument pas pris en compte, ou très peu, dans les modèles. En tout cas de santé dominante, ce qui n'est pas le cas dans les modèles de santé communautaire ou ceux qui ont une approche sociale globale de la santé, etc., qui en tout cas ont au cœur normalement d'écouter les gens sur leur analyse des choses, sur pourquoi ils font ceci et cela, et que c'est eux-mêmes qui doivent élaborer les stratégies de sortie, de survie ou de contournement ou je ne sais pas quoi. Et puis du coup, mon troisième petite anecdote sur ce truc-là, là, sur les parents démissionnaires. Je fais un entretien avec un ancien directeur d'école qui, là, pour des raisons que d'ailleurs je n'ai même pas capté dans l'entretien, a quitté son boulot et il est directeur d'une association qui fait de l'aide aux devoirs, soutien scolaire, etc. Pendant toute la première partie de l'entretien, il a un regard absolument abject et infect sur tous les habitants de quartiers populaires, les parents démissionnaires, etc. Et puis à un moment donné, je ne sais pas quelle lumière me vient et je lui renvoie la balle, est-ce que vous avez des enfants ? Ouais, j'ai deux garçons. Comment ça s'est passé avec eux ? Changement de posture. Ah, c'était vraiment super dur. Là, je vois qu'il se remet dans son histoire perso et tout. Il quitte sa posture, ses analyses. Là, c'est super dur. Il y en a un. En fait, il a changé 3 fois le lycée. Il a repiqué 4 fois. L'autre, c'était vachement compliqué aussi. C'est vrai qu'on a divorcé aussi à ce moment-là avec ma femme, ma compagne et tout ça. Et vous sentiez comment à ce moment-là ? Complètement démuni. En fait, je n'avais plus quoi faire. J'avais plus de prise sur mes gosses, et puis moi j'avais recours d'ailleurs à la violence pour essayer de le calmer, ça ne servait strictement à rien, j'étais complètement perdu. Vous auriez réagi comment si à l'époque vous aviez rencontré des intervenants qui vous avaient dit que vous aviez un défaut de compétence parentale et que vous êtes un parent démissionnaire ? Le mec il me dit, moi ce que j'aurais fait ?
J'aurais pété la
gueule. Lui qui avait un discours depuis le début très propre sur lui, très anti-violence, qui ne comprend pas l'agressivité et la violence dans les quartiers populaires, etc. Et à ce moment-là, et du coup, je lui fais remarquer, vous voyez ce que vous. Enfin, voilà, je lui fais remarquer l'écart, le décalage qu'il avait entre sa posture, ce qu'il préconisait pour les autres, et quand il gagnait sa propre vie. Et là, bon, c'est pas sûr qu'il ait changé de comportement pour autant après, hein, lui dans sa pratique, mais en tout cas, ça l'a mis en défaut. Je sais pas si c'est un peu éclairant ce truc-là, mais du coup, il y a un véritable problème, et c'est un enjeu idéologique extrêmement fort, et notamment depuis la révolution néoconservatrice, néolibérale, capitaliste, vous l'appellerez comme vous voulez, qui vise à insister sur la responsabilité individuelle dans tous les pans de notre vie. Le travail, quand on veut, on peut, si on se mobilise, qu'on a un beau CV, qu'on a des stratégies à l'appliquer, on trouve du travail quand on veut. Dans la question de la santé, c'est la même chose. Sur n'importe quoi, en fait, à chaque fois, on mobilise, on insiste sur la question individuelle. Pourquoi je nomme ça néolibéral et néoconservateur, ou capitaliste ? Je vous rappelle que c'est Margaret Thatcher à qui on doit la fameuse phrase qui dit « La société n'existe pas, il n'existe que des individus et des familles, et ça n'est pas à l'État d'assister les gens pour qu'ils construisent leur vie, c'est aux gens de se prendre en main. » Lionel Jospin n'a pas dit autre chose que ça en 97 ou 98, quand en parlant de la délinquance avec son soi-disant homme de gauche Chevènement, qui disait du coup, à propos de la délinquance, il faut qu'on arrête avec les excuses sociologiques, il faut qu'on puisse réhabiliter la question de la responsabilité individuelle dans nos actes, etc. En tout cas, on a bien une trame de fond très forte au niveau idéologique et qui se retrouve au niveau politique, mais aussi au niveau social. Une formation universitaire en général, etc. La responsabilité individuelle, le fait d'être acteur de sa vie est au cœur du dispositif capitaliste, mais pas seulement capitaliste d'ailleurs, de ces dernières années. Cette idéologie de la responsabilité individuelle, elle est d'autant plus difficile à contrecarrer qu'en plus, elle fait en partie écho à certains héritages, revendications et idées de gauche et des gauches émancipatrices. Être acteur de sa vie, pouvoir décider des choses, reprendre de la liberté d'avoir son mot à dire contre les patrons, contre les hommes, contre les blancs qui décident à notre place. On veut de nouveau être des premiers concernés qui descendent notre propre vie. Nous sommes les meilleurs. Moi, je suis le premier à défendre ce type d'idée-là. On est les mieux placés pour décider de nos propres vies. Du coup, au moment où le dispositif de pouvoir qui est mis en place sur les citoyens aujourd'hui vise à nous impliquer personnellement dans les décisions qu'on fonce, mais bon, pas pour autant qu'il va y avoir des mutations considérables, puisque liberté individuelle et d'avoir son mot à dire, très bien, mais sauf que si l'essentiel des causes se situe ailleurs que dans mes petites mains, l'arnaque. Parce que si en plus j'arrive pas à transformer le réel, à qui je m'en prends ? Eh ben encore à moi. Vachement pratique ça. Je sais pas si je suis clair sur ce truc-là, mais sur la question du chômage, c'est ça qui nous pend au nez. Sur la question, si votre librairie ou d'autres personnes essaient de monter une asso, doit créer son propre boulot, vous prenez sur vos épaules individuelles le challenge d'y arriver, le défi, ou je sais pas comment vous allez, quel mot vous allez employer, et si jamais vous voterez, c'est personnellement que vous aurez vécu l'échec. Parce que tout nous amène à chaque fois à pouvoir individualiser la responsabilité de l'échec, et du coup, politiquement, regardez bien à chaque fois ce qui se passe. Regardez bien, je ne sais pas si on peut le quantifier, mais en tout cas, soyez sensible à l'attribution des causes, l'attribution des responsabilités sur n'importe quel fait de société. Quasiment systématiquement, c'est les dominés, ceux qui sont dans la merde, à qui on attribue la responsabilité d'un fait, au même moment où on déresponsabilise et on invisibilise complètement les responsabilités collectives ou la responsabilité des puissants. Dans un autre débat, je disais que par exemple, le discours fort sur l'état de droit. On a un État qui est en capacité de faire respecter la loi et le droit, il est en extrême capacité de pouvoir agir de manière très dure et rigide contre les faibles, et on a un État qui est complètement mou, et qui n'intervient pas quand il s'agit de s'attaquer aux puissants. Et en tout cas, on a un décalage comme ça de discours à deux vitesses, qu'on peut retrouver sur les questions de santé, comme sur d'autres types de... débats. Du coup, le quatrième, et ça je vais essayer de je vais devoir accélérer un petit peu, ça ne va pas vous parler beaucoup, mais en tout cas le quatrième modèle d'explication que j'ai pu rencontrer sur le terrain ou que, dans lequel moi je m'inscris maintenant et comme d'autres s'inscrivent un peu plus, des personnes parlent parfois d'approche globale de la santé, d'autres parlent d'approche matérialiste de la santé, d'autres parlent d'approche matérialiste et éco-sociale de la santé. Il y a différentes manières de le dire. En tout cas, c'est qu'à chaque fois, ils essayent de bien prendre en compte l'ensemble des facteurs individuels et sociétaux. Mais du coup, ils cumulent tous les niveaux. Le niveau local, le niveau national, le niveau supranational, la question économique, la question culturelle, la question de l'état des politiques publiques. Ils interrogent aussi directement l'impact des politiques d'austérité sur l'état de santé des populations. Ils essaient de repérer différents niveaux comme ça. Et normalement, dans cette approche-là, on prend aussi en compte les caractéristiques sociologiques des gens. C'est-à-dire que s'ils sont, ils ont une catégorie socioprofessionnelle, ils ont une appartenance de classe, on y regarde de plus près parce que ça veut dire quelque chose. On intègre dans l'analyse la question du racisme, du sexisme et d'autres formes d'oppression qui impactent du coup la question de la santé. Là, quand je vous dis qu'il y a plein de facteurs, plein de déterminants, etc., encore une fois, quand on est petit individu et qu'on doit agir, on est un peu noyé hein, sur la grande liste de tous les facteurs qu'il faut prendre en compte, etc. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que d'un point de vue d'action individuelle en santé, quand on agit concrètement avec des gens, ou quand on a un ami qui ne va pas bien, une amie qui ne va pas bien, si notre posture, et y compris parce que des fois on ne sait pas quoi répondre, elle renvoie à la personne le fait que c'est à elle de se prendre en main et de s'en sortir, en fait on est en train de lui enfoncer un deuxième couteau dessus. Et des personnes qui ont une posture de travailleurs sociaux, quand ils doivent accompagner des individus qui sont dans la situation d'état de santé détérioré ou affecté, le type de posture, si jamais on adopte la posture de la responsabilité individuelle, et qu'on n'interroge pas la question de la responsabilité collective, on contribue en fait à l'oppression, voire du coup pas seulement à l'oppression, mais à la détérioration des états de santé à nouveau. Je vais essayer de vous donner, et puis je vais m'arrêter là pour qu'on puisse discuter collectivement. Je voudrais juste terminer par quelques-uns des liens, en tout cas, qu'il y a entre ces dominations sexistes, domination de classe, domination raciste et santé. C'est là où j'aborde la question de « les femmes vivent plus longtemps que les hommes ». La petite astuce, là. A priori, à ma connaissance, quand on est en moyenne, c'est vrai. L'espérance de vie des femmes, en moyenne, est plus longue que celle des hommes. Et cette fois-ci, contrairement à d'autres fois, si on rajoute l'aspect classe sociale au sein du groupe femmes, parce qu'une femme bourgeoise n'a pas le même type de vie qu'une femme ouvrière, qu'une femme d'un foyer précaire n'a pas la même vie, que même sa condition de femme n'est pas la même en fonction des questions des classes sociales, et de la même manière qu'une femme qui en plus subit les questions, enfin qui est affectée par les processus de racisme, il y a femme et femme, quoi. Bon, comme il y a ouvrier, etc. Mais même si on prend la question des classes sociales, en fait, à classe sociale égale, à chaque fois les femmes vivent plus longtemps ou ont a priori un meilleur état de santé que les hommes. A priori. Parce que c'est là où elle est l'astuce. Les femmes vivent plus longtemps, mais elles sont plus souvent malades. Les femmes vivent plus longtemps, mais elles sont plus souvent en dépression. Les femmes vivent plus longtemps, mais elles sont plus souvent soumises à la consommation de médicaments, de psychotropes, de différentes béquilles pour pouvoir tenir le coup et faire face. Les femmes vivent plus longtemps, mais elles sont plus soumises à des formes de burn-out, sauf que c'est du burn-out familial. Et du coup, là aussi, il n'est pas politisé comme le serait un burn-out d'une femme qui travaille, et que ça se passe sur le champ du travail. Là, on va le mettre sur le compte de « les femmes sont plus fragiles psychologiquement », et puis il y a des questions hormonales. Bref, on va réinvestir les vieilles grilles essentialistes, naturalistes, biologiques, les approches dont je parlais tout à l'heure. Sur ces questions, les questions de sexisme, j'ai dit tout à l'heure, il y a certains auteurs ou personnes qui disent donc du coup les femmes sont dominantes quand on regarde, la question de santé. Et là, il y a une entourloupe, en tout cas moi je vous invite à ne pas faire cette erreur-là. Non, les femmes ne sont pas dominantes sur la question de la santé. Pour moi, la manière dont. Enfin, c'est pour moi, je m'inspire des féministes qui m'ont permis de comprendre ça. Le paradoxe de la question de la santé, c'est que d'une part, les femmes restent dominées, puisqu'elles encaissent au niveau de la santé tout le long de leur vie, y compris au moment du vieillissement prématuré, l'usure corporelle des femmes et l'usure mentale au moment du vieillissement est plus important que celui des hommes, et que quand les femmes vivent plus longtemps, elles vivent plus longtemps en mauvaise santé, en situation de dépendance et de perte d'autonomie conséquente. Mais du coup, question dominant ou pas dominant, remettre l'attribution causale ou repolitiser la question du sexisme et santé, c'est qu'en fait, si les hommes meurent plus tôt, c'est qu'en réalité, c'est le coût qu'ils payent, le prix qu'ils payent pour être dominants en tant qu'hommes sur la question du patriarcat. C'est le coût qu'ils payent
quand ils utilisent des éléments de concurrence, de virilité, etc., pour se positionner dans le cadre de la lutte des classes et dans leurs enjeux professionnels, socio-économiques, etc. Pour être dominants, les hommes, par rapport aux femmes, doivent mobiliser un certain nombre d'outils, de ressorts, de ressources, etc., qui va en fait impacter directement leur état de santé. Si je prends très concrètement la distribution, les secteurs du marché du travail qu'occupent les hommes, assez souvent ils occupent des secteurs, enfin en tout cas il y a une surreprésentation des hommes dans les secteurs du marché du travail qui sont les plus nocifs directement à la santé. Même les normes viriles dans les métiers qui sont surexposés à des produits chimiques, etc., on repère souvent qu'une des raisons pour lesquelles, encore une fois, des hommes ne vont pas forcément se protéger sur leur lieu de travail, du coup vont pas respecter les normes de sécurité. Bon, d'abord, il faut repérer que souvent, ils sont les premiers à expliquer « Ouais, bah, je ne les mets pas tes combines parce que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de travail d'enfiler la combine, donc on a arrêté. » Donc c'est d'abord les conditions de travail qui font que... Mais d'autres fois, il y a aussi, comme dans le cas de la culture des mineurs ou d'autres, moi, pour être un vrai bonhomme, moi, je me protège pas, moi. Moi, je mets pas le masque. Moi, je respire les trucs. Et il y a aussi des normes de virilité. Donc du coup, je sais pas si je suis clair là-dessus, mais... Pour pouvoir être dominant par rapport aux femmes et justifier le fait qu'ils soient dominants, les hommes mettent en jeu en fait leur capital santé. Leur santé, leur état de santé. Bon, voilà, en tout cas, voilà, c'est une conséquence effectivement en fait, de la domination masculine. Et l'autre élément, c'est qu'en fait, c'est pas non plus les femmes qui sont responsables de ça. Quand les hommes s'abîment en termes de santé, meurent plus tôt ou sont exposés à des maladies plus tôt, c'est de la responsabilité d'autres hommes. Quand dans le cadre de la guerre, par exemple, parce que chez les masculinistes, là, c'est les gros machos anticaministes, etc., là, qui se mobilisent au niveau théorique et pratique contre les acquis du féminisme, un certain nombre disent bah, « Regardez les femmes en situation de guerre, elles sont avantagées, c'est des privilégiés quand même. » Et bien donc c'est de leur faute si en fait les hommes sont surreprésentés dans les décès de guerre. Et non, mais ils sont forts, les masculinistes, ils sont vraiment hallucinants, comme quoi, avec des mêmes stats, on peut te faire bien n'importe quoi. Et du coup, une partie des féministes leur disent « Ouais, mais c'est qui vous a envoyé au front, bande de couillons ? C'est vos femmes ou c'est d'autres hommes qui, d'ailleurs, eux, ne feront pas la guerre et qui, d'ailleurs, eux, ne seront jamais des pertes de guerre ? Mais c'est ces hommes-là, du coup, en termes de classe sociale aussi, mais c'est votre classe d'hommes, mais c'est une autre classe sociale qui vous envoie, vous, à faire de la chair à canon, de la chair à patron. » Encore une fois, l'attribution des causalités pour regarder les choses en termes de domination, ça n'est donc pas les femmes qui sont ni en situation d'influencer l'état de santé des hommes, mais plutôt les hommes qui, s'ils veulent moins crever, ont aussi, de ce point de vue-là, du coup, normalement, un intérêt immédiat, un intérêt social, curieusement, à remettre en cause le patriarcat, alors que, curieusement, sur la question du patriarcat, ils ne devraient pas avoir intérêt à le remettre en cause. Pas du tout, puisqu'ils sont les principaux bénéficiaires. Quelques exemples du coup sur la question du racisme et du sexisme du racisme, pardon. Alors du coup sur la question du racisme, il y a aussi toutes les questions LGBT, hein, vous savez que chez les adolescents, la première cause du suicide, c'est la question de l'homophobie qui fait que les gamins gays et lesbiens qui sont les premiers à se foutre en l'air dans le cadre de l'école. Un certain nombre de personnes n'ont pas accès à de la médecine adaptée, parce que la médecine refuse de prendre en compte pour l'instant la question de genre et la question de la sexualité. Ce qui fait que même dans la pose du diagnostic. Parfois, il y a une intrigue, il y a une erreur de diagnostic sur le type de problème et donc le type de solution, parce que du coup, il y a une donnée énorme de la situation de la personne qui est notamment liée à son homosexualité. Sur la question du racisme, les liens se traduisent de plusieurs façons différentes. Je vais essayer de pas trop vous saouler, parce que là, je crois que j'étais un petit peu... juste qui se traduit à trois niveaux, notamment... par l'intermédiaire du mécanisme de discrimination. Vous savez que la discrimination, normalement, c'est un traitement inégal entre égaux. C'est pas avantager quelqu'un parce qu'il est noir ou arabe. Mais une discrimination, c'est quand tu as deux personnes qui ont les mêmes caractéristiques, qui ont le même diplôme, qui ont les mêmes compétences, les mêmes savoirs, et qu'il y en a une qui n'est pas prise parce qu'elle est noire. C'est ça une discrimination. C'est uniquement parce qu'il y a un facteur racial qui fait qu'elle n'est pas prise. Sinon, il n'y a pas de discrimination quand un noir n'est pas pris parce qu'il n'a pas les qualifications professionnelles attendues. C'est pas la discrimination. Par contre, ça peut être le résultat d'une discrimination si en fait il n'a pas une voie attendue, puisque systémiquement, depuis des générations et des générations, son groupe social d'appartenance est empêché de pouvoir accéder à ce niveau d'études. D'accord ? Mais ce n'est donc pas de la discrimination directe. En tout cas, il y a de la discrimination qui joue directement. quand encore aujourd'hui, des personnes se font refuser l'accès aux soins du fait de leur couleur de peau, etc., mais aussi du fait de leur voile. Et ça, aujourd'hui, c'est une des principales sources de discrimination directe, d'un racisme ouvert, immédiat, qui empêche des personnes d'accéder au droit à la santé du fait qu'elles portent le voile. Donc là, c'est la discrimination islamophobe. Ça, c'est la discrimination directe, mais comme dans toutes les analyses de discrimination, les discriminations directes ne sont pas forcément les plus importantes en quantité. Des fachos assumés qui assument le fait que je ne te prends pas parce que tu es noir ou arabe, ou comme des sexistes assumés qui ne te prennent pas parce que tu es une femme, et qui le posent, qui te le disent, c'est pas ce qu'on rencontre le plus aujourd'hui.
Et puis c'est pas
puni. Enfin, excuse-moi. Vas-y. C'est génial. Vas-y. Ben si, c'est aussi pour ça que dans ce cas-là, c'est une discrimination légale, parce que normalement, il y a une obligation de soins. Le critère refuser quelqu'un avec son voile, c'est interdit en France, pour le moment. Je dis bien pour le moment, jusqu'à ce qu'on ait créé des lois qui empêchent les gens de pouvoir être soignés.
Ça
peut
exister, mais ça se passe pas aussi facilement.
J'imagine que si des praticiens avaient des conditions comme ça, il y aurait quand même des plaintes ou des...
Bah, c'est là où c'est en avant la discrimination, mais c'est comme le droit au travail. Théoriquement, ça ne devrait pas exister que les femmes aient un salaire inférieur de 20 à 30% par rapport aux hommes, parce que la loi le dit. Ça ne devrait pas exister les procédures de harcèlement ou même de viol dans l'espace public, parce que c'est interdit. Donc c'est ça qui est embêtant avec les discriminations comme pour d'autres. C'est qu'il y a le cadre de la loi, et puis ensuite il y a le cadre des rapports de force sur ce qui est possible d'exister dans une société, ou dans un espace social, dans un collectif. La deuxième forme qu'il peut y avoir, c'est la discrimination dite indirecte. C'est les médecins qui, par exemple, refusent de prendre des patients qui sont à la CMU. Et que sur un territoire, la majeure partie des patients de la CMU sont en fait d'origine immigrée. Le critère de sélection n'était pas forcément un critère racial et raciste, mais les conséquences inégalitaires font qu'en fait, c'est bien une discrimination raciste dont il s'agit, même si la personne n'avait pas une intention raciste au départ. C'est comme ça qu'on distingue discrimination raciste et indirecte et indirecte. Direct, il y a une intention raciste, indirect, il n'y a pas forcément d'intention, mais le résultat inégalitaire raciste est quand même là.
Bah, l'intention, elle est quand même là, quand on choisit de ne pas prendre des gens, de prendre ce qu'elle doit s'amuser, il y a un moment où, du coup, la discrimination, elle est claire, là.
Et là, c'est la discrimination de classe, directe.
Direct, mais pour la classe.
Mais pour le racisme, c'est indirect,
tout à fait. Mais pour le racisme, voilà.
Troisième élément d'incorporation, en tout cas, de lien entre discrimination raciste et santé, par exemple, c'est que tout simplement, si on dit que les déterminants sociaux de la santé, c'est le logement, le travail, le niveau de revenu, est-ce que je vis dans un quartier qui est pollué ou pas, est-ce que je suis exposé à la police, est-ce que je suis exposé aux crimes policiers, aux bavures policières, aux agressions dans la rue, etc., physiques, aux situations de guerre ou autres, et que ça, c'est effectivement organisé aussi par le poids des discriminations racistes. Si les discriminations jouent dans le cas des déterminants sociaux de la santé, en fait, indirectement, il y a bien des conséquences sur l'état de santé ensuite, même s'il n'y a pas forcément de rapport direct, encore une fois, c'est un rapport indirect, systémique, etc. Et après, il faut pouvoir imaginer, je vais arrêter là-dessus, sur l'ensemble des conséquences, mais du coup, on pourrait faire des parallèles avec le sexisme, là, peut-être même sur le mépris de classe. Je vais rester sur le racisme, l'ensemble des conséquences sur l'état de santé des gens et l'état de stress lorsque, au quotidien, ou quasi quotidiennement, dans les médias ou dans la sphère personnelle, individuelle, dans le boulot, dans l'association, sont répétés de manière récurrente des propos stigmatisants, des propos humiliants, quand même les personnes n'avaient pas envie de le faire, parce que moi j'aime bien les Arabes, mais quand même les Arabes, c'est vrai que vous êtes violents dans votre Coran, là. J'ai juste dit ça, ça a encore un coup de couteau de plus, parce que ça fait 30 ans qu'on vous en a avec ça. C'est l'ensemble de ces paroles, de ces mots, de ces représentations sociales, de ces discours qui sont répétés et qui à chaque fois sont des formes de mise en indignité des gens qui vont pouvoir les affecter dans leur amour propre, dans leur confiance en eux, dans un niveau de stress permanent et d'un sentiment finalement d'être harcelé de la même manière qu'une personne pourrait être harcelée vis-à-vis de la question de harcèlement sexuel ou d'harcèlement au travail ou d'harcèlement managérial. Et effectivement, au regard de ces conséquences sur le métabolisme, regardez le racisme comme une des formes de harcèlement permanent pour les personnes. Parce que, effectivement, les modifications, en tout cas, du coup, hormonales, le niveau de stress, etc., que ces éléments-là peuvent peuvent produire sur le corps, ils organisent à court, moyen, long terme, surtout quand ils sont donc répétés, ce qui est le cas pour le racisme, du coup, une usure prématurée des corps, une usure prématurée même des canaux de transmission, des flux corporels, etc. Et du coup, bah, c'est le type d'études que j'ai réussi à choper. En France, il y en a peu, il commence à en avoir notamment autour de Paris 7, mais plus aux États-Unis, où il y a un lien direct fait entre, par exemple, racisme et obésité. Mm-hmm. Du coup, c'est des trucs qui n'ont pas de soi. A priori, ça paraît loin, cette affaire-là. Et comme type de dernier exemple, comme exemple pour illustrer un petit peu ça, qu'est-ce que c'est que pour un individu de grandir dans une société qu'il méprise en permanence, qui en permanence est en train de lui ôter son droit d'être ce qu'il est, d'exister pour ce qu'il est ou ce qu'elle est. Il y a une petite vidéo qui a circulé, je ne sais pas si j'ai eu le temps d'en parler la dernière fois que j'étais venu à Grenoble. Petite vidéo où vous taperez sur YouTube la vidéo de la poupée noire et poupée blanche. Poupée noire et poupée blanche, c'est une expérimentation en psychologie sociale qui a été refaite au cours des années 2000 après qu'elle a été faite une première fois dans les années 60 au moment de la ségrégation raciale. Quand elle a été faite dans les années 60, leur idée c'était de mesurer sur l'état de santé des gens et l'état de bien-être des enfants l'impact direct de la ségrégation et du système ségrégationniste. 60 ans après, ils ont refait la démarche, puisqu'il n'y a plus de ségrégation officiellement, et puis qu'on a un président noir aux États-Unis. Normalement, ça va mieux, non? Donc ils ont refait le test, et le test avec des gamins de moins de 2-3 ans. Et du coup, le test, poupée noire, poupée blanche, on voit les petits enfants, du coup, sur une table, avec deux poupées, une poupée noire et une poupée blanche, les mêmes, juste la couleur de peau qui change, et ils leur posent des questions tout à fait ordinaires, banales. Ils leur demandent quelle est la poupée la plus belle. Et les enfants noirs, métis noirs asiatiques, hispano, ama, tout ce que vous voulez, de montrer la poupée blanche. Quelle est la poupée la plus intelligente? Les enfants montraient la poupée blanche. Quelle est la poupée la plus méchante? Les enfants montraient la poupée noire. Quelle est la poupée la plus laide? Les enfants montraient la poupée noire. Quelle est la poupée la plus stupide? Les enfants montraient la poupée noire. Et quand ils leur demandent, et toi tu ressembles à quelle poupée? Les enfants baissent la tête et montrent la poupée noire. Imaginez ce que c'est quand vous êtes en situation de développement pour un gamin depuis la petite enfance et que toute votre vie va vous répéter le même type de schéma, ce que c'est que sur l'état de perception de soi-même, le fait de grandir dans un environnement qui en permanence te dévalorise, t'humilie, te stigmatise, etc. Et bien évidemment, en regardant les choses comme ça, on a, je pense, un bout d'explication des 28 années d'expérience de vie différentes dont je vous parlais tout à l'heure, ou de la question d'espérance de vie, au-delà des questions de violence auxquelles ils sont exposés très concrètement. Et du coup, cette expérience de la poupée noire et la poupée blanche, je pense, mais ça, il faudrait le construire, parce que là, comme ce n'est pas encore le cas, qu'on peut faire des parallèles aussi avec le type d'humiliation, de stigmatisation, de décalage de perception de soi entre hommes et femmes, et que du coup, on aurait une idée d'un potentiel facteur explicatif vu de la question de la dépression, de surreprésentation de certains comportements en santé des femmes ou d'état de santé des femmes. De la même manière, mais sauf qu'on ne le fait plus aujourd'hui, depuis quelques années, la question de lutte des classes, capitalisme, elle revient sur les notions d'exploitation. Elle revient sur les notions de conditions de travail. Mais tout l'acquis du mouvement ouvrier, sur l'impact du capitalisme, sur l'aliénation sociale et culturelle, le fait de se sentir être étranger à soi-même, sur l'impact de ce mépris de classe sur y compris l'état de santé, toute cette partie-là, on l'a complètement oubliée. Et en tout cas, du coup, je vous invite, à chaque fois que vous aurez que vous sentirez en tout cas un coup de déprime ou je ne sais pas quoi à venir, mais aussi des doutes sur la valeur que vous avez, les questions de confiance en vous ou d'autres personnes, à chaque fois, ayez ce réflexe, sauf que ça ne suffit pas de le dire pour que ça se passe comme ça dans les faits, hein. Mais repensez bien qu'on a tout fait pour vous faire porter sur les épaules la culpabilisation et la question de la responsabilité individuelle de votre mal-être, de votre état de santé, et qu'en fait elles ont des causes donc qui sont bien liées aux rapports sociaux structurels de domination, des rapports sociaux de race, de classe, de sexe, sauf que du coup ça se travaille, et normalement demain on va essayer de creuser un petit peu plus sur ce que c'est que ces rapports sociaux classe race. Je vous remercie, c'était un petit peu long, je suis désolé si je vous assomme complètement. Voilà, c'était les quelques petites pistes que j'essayais de creuser, en tout cas, pour faire ce fameux lien entre des concepts un peu abstraits, et puis la réalité de nos vies, notre bien-être, notre mal-être et notre état de santé. Du coup, je te passe la main pour l'animation du débat, mais en tout cas, je voulais juste préciser que maintenant, l'idée, c'est pas forcément, enfin, sauf si vous en avez besoin, mais... pas forcément qu'on soit dans des questions-réponses, genre Jessie, tu sais des trucs, et on te pose des questions. C'est aussi qu'on soit sur un truc plus collectif. Il y a peut-être d'autres gens parmi vous qui ont des savoirs plus J'ai dit des conneries, qu'il y a des gens qui savent mieux des choses que moi et qui vont pouvoir compléter, contredire ou je sais pas quoi. Peut-être que vous pouvez faire des liens avec des expériences concrètes que vous connaissez aussi. Enfin bref, qu'on soit sur quelque chose de plus horizontal que moi debout et vous assis là pour l'instant. Donc je sais pas s'il y a des réactions ou des réactions, des analyses à partager, des choses.
J'ai côtoyé des personnes.